Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le président de la République invite les leaders et tous les Congolais à privilégier la cohabitation pacifique entre les communautés. Appel lancé hier vendredi ici à Kinshasa au cours de la 49e réunion du Conseil des ministres. Au Nord Kivu, le maire intérimaire de la ville de Butembo exige désormais un contrôle systématique dans tous les lieux publics. C'est afin de parer à toute éventualité sécuritaire, spécialement en cette période festive de Pâques. L'invité de ce journal est le conseiller climat de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable. Le professeur Joseph Longunza Malassi s'exprime sur la co-organisation des travaux préparatoires de la COP 27 avec l'Égypte. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, hausse des prix pétroliers. Le ministère de l'Économie informe le public de la signature hier vendredi des arrêtés portant fixation des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement du pays, ouest, est et sud. Cette décision est contenue dans un communiqué officiel publié ce samedi et signé par le secrétaire général à l'économie nationale. Selon ce communiqué, ce réajustement de prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. À cet effet, les prix des carburants à la pompe sont fixés de la manière suivante. Zone d'approvisionnement ouest, essence 2195 francs congolais le litre, gasoil 2185 francs congolais le litre, pétrole 1800 francs congolais le litre. Zone d'approvisionnement est, essence 2695 francs congolais le litre, gasoil 2600 francs le litre, pétrole 2150 francs le litre. Zone d'approvisionnement sud, essence 2695 francs congolais le litre, gasoil 2690 francs le litre, pétrole 2250 francs le litre. À présent, les détails. Montée du discours de haine et du tribalisme dans la sphère publique depuis un certain temps en RDC, le président de la République invite les leaders politiques, religieux et socioculturels ainsi que tous les Congolais à privilégier la cohabitation pacifique entre les communautés. Félix Antoine Tshisekedi l'a dit hier vendredi au cours de la 49e réunion du Conseil des ministres. Il a rappelé qu'en se référant à l'histoire de notre pays, chaque montée en puissance du discours tribaliste s'est toujours soldée par l'écoulement du sang des Congolais et la destruction de l'unité nationale. Par ailleurs, le chef de l'État a instruit plusieurs ministres, notamment celle de la justice, pour avoir un arsenal de mesures légales afin de réprimer les auteurs des messages tribalistes. On écoute le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Le président de la République a ainsi lancé un vibrant appel aux leaders politiques, aux responsables religieux, aux forces vives de la société civile, ainsi qu'à tout bon citoyen congolais, à s'investir davantage pour favoriser une interpénétration ethnique positive qui est une richesse nationale pour le pays et un rempart contre son émiettement. Le président de la République a attiré l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, de la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, ainsi que de la ministre près le président de la République, afin qu'ils puissent chacun, dans la limite de ses attributions, travailler pour, d'une part, avoir un arsenal de mesures légales répressives envers les auteurs de l'incitation à la haine et au tribalisme, et d'autre part, d'encourager les initiatives telles que l'organisation des dialogues intercommunautaires en y associant les chefs coutumiers et développer de projets culturels, associatifs et sportifs intégrateurs qui renforceront la cohésion sociale, l'esprit patriotique et l'unité nationale.
Et toujours au cours de la 49e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre a condamné l'assassinat cette semaine aux États-Unis d'Amérique de Patrick Lioya, d'origine congolaise, par un policier au cours d'un contrôle de routine. On écoute encore une fois le ministre Patrick Muyaya.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, a condamné avec force le lâche assassinat par un policier blanc aux États-Unis d'un citoyen d'origine congolaise nommé Patrick Lioya, sans arme lors d'un contrôle de routine. Il a précisé que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a exprimé à notre vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les vifs regrets ainsi que les condoléances de son gouvernement suite à cet acte ignoble. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a rassuré le gouvernement de la République que tout est déjà mis en œuvre par son pays pour que le policier, auteur de cet assassinat, soit sévèrement sanctionné conformément aux lois américaines en la matière.
Un dossier signé Alain Hirung. Quel parti politique en RDC? Quelle classe politique? Quel taux de croissance pour rattraper le retard en termes de défis socio-économiques? Ce sont là les questions auxquelles le parti Nouvel Élan veut répondre à travers la campagne intitulée « L'offre politique pour le développement du Congo ». L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, initiateur de ce parti, a lancé cette campagne ce samedi à Kinshasa lors d'un déjeuner de presse. Objectif, selon lui, de doter la RDC d'un projet politique qui incarne les aspirations du peuple. Il est dit à Paul Matendo.
Notre objectif, c'est d'avoir une offre politique, un projet politique qui incarne les vraies aspirations du peuple, c'est-à-dire la demande du peuple dans son ensemble, au lieu de les faire dans un bureau, à travers l'état-major du parti, nous voulions les faire au contact avec la population. Les faiblesses sont que les partis politiques sont petits, les coalitions, de manière générale, sont hétéroclites. Et les alliances se font, parce qu'elles ne reposent pas sur des projets politiques pertinents qui, en principe, devaient faire l'objet des discussions au préalable, avant de se mettre ensemble. C'est ça qu'il faut corriger. Il faut corriger aussi le fait que les partis politiques ne sont pas soutenus par l'État, ne sont pas subventionnés. Et les politiciens veulent plutôt, comme je l'ai dit, nous avons un pays, un royaume des aveugles conduits par les borgnes. Les borgnes, ce sont les partis politiques et leurs leaders ne veulent pas construire des partis dignes de son nom.
Au Kwilu, 9 prisonniers sur les 10 que comptait la cellule des tuberculés de la maison carcérale de Kikwit se sont évadés dans la nuit du 15 au 16 avril 2022. Cette information a été donnée par le maire de la ville de Kikwit, Leonard Motangu. Selon lui, ces évadés ont creusé progressivement pendant plusieurs jours les murs et sont sortis par le trou. L'autorité urbaine profite de l'occasion pour demander au gouvernement central de reconstruire cette prison qui n'est plus digne d'être appelée maison carcérale à cause de son état de dégradation très avancé, ayant déjà occasionné plusieurs évasions. Les détails avec Irène Boma.
C'est dans la nuit de vendredi 15 à ce samedi 16 avril que cette évasion a eu lieu dans la prison urbaine de Kikwit. Le maire de cette ville précise que parmi les 10 prisonniers qui étaient gardés dans la cellule de tuberculés, 9 se sont évadés, dont 8 déjà condamnés. D'après Leonard Motango, c'est l'état de délabrement très avancé de cette maison carcérale due à sa vétusté qui a facilité cette évasion. Il appelle les autorités attitrées à reconstruire cette prison afin d'éviter de pareilles situations.
C'est une prison qui date du temps de la colonisation. Ils ont réussi purement progressivement à creuser dans les murs. Nous lançons pour énième fois le cri d'alarme que la prison de Kikwit est toute vétuste. Les conditions ne sont pas bonnes pour être appelées une prison. Ceux qui sont là, ils sont par leur volonté. À tout moment, ils peuvent se décider de partir. Les autorités compétentes, ceux de la justice, le gouvernement central, de s'en occuper avec des nouvelles constructions.
Notez que ces prisonniers évadés sont trop faibles parce qu'ils sont malades. L'un d'eux vient d'être récupéré ce samedi par les services de sécurité, a signalé Leonard Motango qui ajoute que des enquêtes sont lancées pour retrouver les autres. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
En bref, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise UPDF, le général Wilson Bandi, est arrivé ce samedi à Bunia, chef de la province de l'Ituri. Il a été accueilli par le gouverneur de province, le général Luboyan Kashama Djuni. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, le numéro 1 de l'armée ougandaise vient rencontrer son homologue congolais, le général Célestin Mbala Moussensé, pour échanger sur les opérations conjointes FRDC-UPDF. Opérations qui ont pour objectif la traque des rebelles de ZADF dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les deux chefs d'état-major ont eu une séance de travail élargie au commandant de la 3e zone de défense, au coordonnateur des opérations conjointes et au commandant des secteurs opérationnels de l'Ituri, Sokola 1 et Dungu. Le premier vice-président du Sénat séjourne en Bujima et au Kasaï oriental depuis jeudi dernier. Eddy Mundela est venu faire une évaluation des travaux du projet Tshilédjelou et échanger avec la population autour de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Hier vendredi, le premier vice-président du Sénat a visité quelques sites où les travaux s'effectuent. Eddy Mundela donne ici ses impressions au micro des journalistes accrédités au gouverneur de province.
Tout simplement un déficit de communication. Moi-même, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que le travail est en train d'être fait et pas de moindre. Il faut que vous puissiez aussi comprendre que le problème de l'enclavement de la province fait qu'il y a un problème d'approvisionnement des entrants. Tout ce qui doit être utilisé sur le chantier vient de l'extérieur, que ce soit de Lubumbashi ou bien de l'Angola. Dieu merci pour nous, en ce moment-ci, il y a un wagon spécial qui nous ramène du ciment pour pouvoir essayer un peu de donner un coup de pouce aux travaux qui sont en train d'être faits ici. Je peux vous rassurer que le projet Chile Genou va prendre de l'allure en ce moment-ci et je crois que d'ici là, ça sera la phase finale.
Dans la province du Maniema, aujourd'hui samedi, ça fait 4 jours que les étudiants de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Kalima n'étudient pas. Ils réclament auprès du directeur général la baisse des frais académiques. Au besoin, reconduire les mêmes frais de l'année passée, conformément à la décision du ministre de tutelle. Des détails avec Florence Kizalunga.
Après une marche organisée le mercredi dernier à Kalima, ces étudiants de l'ISTEM Kalima accusent le directeur général d'avoir doublé ses frais pour cette année académique. Ils réclament la baisse et le départ du directeur général pour reprendre les enseignements.
Le DG de l'ISTEM Kalima a majoré les frais académiques. Il demande aux étudiants des L2 de payer 770 000 francs et aussi aux étudiants des Bac 1 de payer 550 000 francs. Le DG n'a pas respecté la décision du ministre de reconduire le même frais de l'année passée. Notre décision, les étudiants de l'ISTEM Kalima, compte diminuer un peu les frais académiques et le départ du DG. Sinon, nous resterons toujours à la maison en train de chômer.
Allégation qui rejette le directeur général de l'ISTEM Kalima, Léonard Bitoubi Babengana.
Il s'agit d'un groupe de garçons qu'on a recrutés à gauche à droite dans la cité, à qui on a donné des boissons alcooliques, et puis ils sont venus attaquer l'institution. J'ai affiché les frais comme ça a été arrêté par la commission budgétaire, ensuite discuté dans les coges à travers la note ce qu'il envoie chaque fois dans les établissements d'enseignement supérieur.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
À l'Équateur, l'ONG Groupe d'Action pour Sauver l'Homme et son Environnement est à la croisée de deux processus d'aménagement du territoire. L'un dans le cadre de la réforme avec le programme Intègre RED+, et l'autre dans la planification de l'aménagement du territoire avec quelques terroirs villageois. Ce qui explique la table ronde provinciale, un multi-acteur de 2 jours ouvert hier vendredi en Mbandaka avec l'appui de la REN Fondation Norvège et de la NICFI. Des précisions avec Paul-Richard Malengela.
La première édition de cette table ronde provinciale, ont indiqué les organisateurs, vise à mobiliser les différents acteurs à faire un état des lieux du processus de l'aménagement du territoire à l'Équateur. L'avantage est de s'imprégner du processus et d'en faciliter la conduite harmonieuse sur le terrain, mais aussi le renforcement des capacités des parties prenantes, tant au niveau provincial que de la communauté. Autres bien fondés, les participants, dont une cinquantaine d'acteurs étatiques et non étatiques, vont établir ensemble un bilan global d'avancement du processus, ainsi que les différentes réalisations en ces jours. Joe Black Ingila, animateur communautaire du GACH, revient sur l'état des lieux de l'aménagement du territoire à l'Équateur.
Avec la RFN, nous avons élaboré déjà le plan simple d'aménagement du territoire du groupement Ngélé dans le territoire de Lukolela. Et dans le cadre du projet PIRET, avec la composante aménagement du territoire, nous avons 6 plans simples d'aménagement du territoire déjà élaborés dans le secteur des Elanga. Comme ça, quand chaque secteur a son espace et qu'il n'existe pas de superposition, pas de conflit foncier. C'est en ces moments-là qu'il y a un développement qui arrive. Voilà que l'économie de la province peut être boostée.
Au cours de l'atelier, ce samedi, à l'issue des travaux en groupe et avant la clôture, il sera question de tirer des leçons constructives des expériences sur terrain. Mbandaka, Paul Chamalingué, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
Inondation actuelle en Afrique du Sud, la ville de Durban se retrouve face aux conséquences du changement climatique. Dans l'entretemps, le nombre de morts monte et approche du seuil de 400 dans la province du KwaZulu-Natal. Des records de précipitations ont été enregistrés. Le président Cyril Ramaphosa a comparé ces événements au cyclone qui frappe d'habitude le Mozambique voisin. Tunisie, un navire marchand transportant 750 tonnes de gasoil coule au large de Gabès. C'est un cargo qui a coulé dans la matinée ce samedi au large de cette ville dans le centre du pays. Les autorités redoutent désormais une marée noire battant pavillon de Guinée équatoriale, transitant par l'Égypte et à destination de Malte. Le navire Xelo était en difficulté depuis vendredi soir en Méditerranée.
L'invité.
L'invité de ce journal est le conseiller climat de la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable. Le professeur Joseph Longunza Malassi s'exprime sur la co-organisation des travaux préparatoires de la COP 27 avec l'Égypte. Le professeur Joseph Malassi Mongassi est interrogé par Alain Hirung.
Professeur Joseph Longunza Malassi, bonjour.
La RDC va co-organiser avec l'Égypte les travaux préparatoires de la COP 27. Qu'est-ce que cela représente pour la RDC dont les forêts représentent le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie?
Tout d'abord, j'aimerais faire un rectificatif. Lorsque vous comparez les forêts de la RDC aux forêts de l'Amazonie, l'Amazonie, sur le plan superficiel, a certes plus d'espace que le bassin du Congo et la RDC, mais les études récentes, notamment les études entreprises grâce à la tour à flux de Yangambi, ont démontré par l'université de Gand de Belgique, ont démontré que à l'hectare, les forêts du bassin du Congo séquestrent plus de carbone, en l'occurrence 1,7 tonnes à l'hectare, comparativement aux forêts du bassin de l'Amazonie qui, elles, séquestrent environ 1,2 tonnes à l'hectare. Donc là, c'est quelque chose de très significatif qui convient de souligner et de le ressouligner. Sommes-nous le premier bassin, le second bassin? Oui, en termes de superficie, nous sommes le second. Mais en termes de potentiel de séquestration du carbone atmosphérique, le bassin du Congo est un puits extrêmement puissant et aujourd'hui, le monde entier l'a reconnu. Mais aujourd'hui, la RDC est fière d'avoir obtenu le quitus mondial, bien sûr en passant par la République arabe d'Égypte, de co-organiser les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, ce que ça représente à la RDC, premièrement, c'est le leadership affirmé, environnemental. Deuxièmement, comme vous le savez, lorsque vous avez le monde entier dans vos murs, parce que c'est ce dont qui sera question. La RDC, pendant quelques jours, sera l'attraction du monde. Nous aurons dans nos murs les ministres de l'Environnement de toute la planète. Et donc là, c'est une opportunité pour le pays pour faire son propre marketing. Et lorsque un pays fait son marketing, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le ciel. C'est à nous de pouvoir nous définir les grandes lignes. Qu'est-ce que nous voulons dire au monde?
Alors, professeur, qu'est-ce que la RDC, qui se veut pays solution, va apporter en termes d'expertise pour la réussite de ces travaux préparatoires?
J'aimerais préciser que ce n'est pas le pays organisateur qui impose sa vision, mais le pays organisateur ou le pays co-organisateur offre le cadre. Et donc, en offrant le cadre pour que les réunions se passent, étant organisateur ou co-organisateur, vous avez une certaine dose d'influence par rapport aux sujets qui sont traités parce que vous êtes dans la cabine de pilotage lorsque les préparatifs sont faits. Donc, ce que la RDC apportera, en dehors de contribuer à l'appui de la position africaine et de la position des pays les moins avancés en termes d'adaptation au changement climatique, la RDC, avec son équipe d'experts qui est très performante, la RDC va faire entendre la voix du bassin du Congo et, dans une certaine mesure, ensemble avec l'Égypte et les autres États de l'Afrique, la voix de l'Afrique, surtout pour les questions ayant trait à l'adaptation au changement climatique.
Pour terminer, professeur, les COP, c'est-à-dire conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, se multiplient et semblent malheureusement se ressembler, selon certains experts, puisque selon ces derniers, la plupart des résolutions restent lettres mortes. Qu'est-ce que la RDC pourrait apporter en termes d'impulsion dans ses travaux préparatoires pour que la prochaine COP 27 soit différente des précédentes?
Bon, d'abord l'affirmation de dire que les COP se ressemblent et ne font pas avancer le débat climatique, je ne suis pas de cet avis. J'ai étudié les négociations climatiques, je vous ai dit que c'était ma spécialité. Et donc, si par exemple, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les contributions déterminées au niveau national, la CDN, vous en avez certainement entendu parler. Si aujourd'hui nous en sommes arrivés à ce que toutes les nations du monde puissent déployer des efforts pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est bien parce que la dynamique internationale, la nébuleuse climatique internationale, à travers les conférences des parties, est en mouvement. Ça bouge. Certainement que ça ne bouge pas autant qu'on l'aurait souhaité, ou ça ne bouge pas autant que l'urgence climatique l'aurait dicté, mais il faut quand même reconnaître que les efforts ont été faits.
Professeur Joseph Longunza Malassi, merci.
C'était notre invité, le conseiller climat de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable. Avant de clore ce journal, je vous rappelle que le ministère de l'économie informe le public de la signature hier vendredi à Kinshasa des arrêtés portant fixation des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement du pays. Cette décision est contenue dans un communiqué officiel publié ce samedi et signé par le secrétaire général à l'économie nationale. Avec vous, Alain Hirung, les détails des prix à la pompe sont fixés de la manière suivante.
Zone d'approvisionnement ouest, essence 2195 francs le litre, gasoil 2185 francs le litre, pétrole 1800 francs le litre. Zone d'approvisionnement est, essence 2650 francs le litre, gasoil 2600 francs le litre, pétrole 2150 francs le litre. Zone d'approvisionnement sud, essence 2695 francs le litre, gasoil 2690 francs le litre et pétrole 2250 francs le litre. Jean-Désiré Kanyama.
Merci Alain Hirung, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais vous pouvez continuer à écouter ce journal sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.